finalement dans cette médiation, il y a beaucoup de thématiques que j'aborde, mais une dont je voudrais parler ici, c'est le rôle du conservatoire finalement dans la propulsion de Messiaen sur la scène musicale. En fait, les gens qui n'ont pas été au conservatoire ignorent à quel point l'esprit de corps fonctionne là-bas. Et s'ils l'ignorent, c'est tout simplement, parce que moi, bon, j'ai été au conservatoire, donc je connais cet esprit de corps. Si les gens l'ignorent, c'est simplement qu'ils n'ont pas, ils ne font donc pas partie du corps eux-mêmes et que donc ils ne sont pas censés le savoir, ils ne sont pas intronisés. Mais qui a défendu finalement les œuvres de Messiaen sous sa baguette? C'est notamment Boulez qui parfois était dans un rapport plus conflictuel, mais en général qui était plutôt fidèle à Messiaen. Boulez a servi Messiaen sous sa baguette. Yvonne Loriot, la seconde femme de Messiaen, a créé presque toutes les pièces pour piano de Messiaen, et donc notamment toute la volière de Messiaen a été créée par Yvonne Loriot, qui est une pianiste du CRU, une élève du conservatoire que Messiaen a connu au conservatoire durant les années 40. Et Antoine Goléa est aussi un produit du CRU, qui est le premier défenseur musicologue de Messiaen. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'on ne comprend pas, c'est que Messiaen était le capitaine, finalement, une sorte de d'Artagnan admirable. À cause de quoi? Non pas à cause de son génie supposé, mais à cause du fait du nombre de prix qu'il avait remportés dans les années 30. Et pour le conservatoire, Messiaen au départ était une sorte d'oreille magnifique et admirable, ultra primée. De la même façon exactement que Jean-François Zigel en son temps, si vous voulez, ou que Marc-Olivier Dupin, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui a été directeur du conservatoire après, ou directeur de France Musique, ou Mantovani aussi. Alors, des gens multiprimés font des légendes internes au conservatoire. Et cet esprit de corps abrase l'esthétique. C'est-à-dire que pour le conservatoire, Jean-François Zigel et Messiaen sont au même niveau. C'est-à-dire que Zigel est plutôt un défenseur de l'ultratonalité, comme Benoît Durtertre ou Zavaro ou Connaisson, et Musique Nouvelle en Liberté et le groupe Phoenix, etc. Rien à voir avec Messiaen, qui est dans une sorte quand même de modernisme affiché, défendu par Boulez. Ça n'a rien à voir pour l'esthétique. Mais pour le conservatoire, c'est la même chose, parce que les deux ont à peu près le même nombre de prix. Voyez. Et donc c'est une gloire potache. Si vous voulez, Messiaen a été porté par un esprit potache. Comme Zigel a été porté à sa place à la télévision aujourd'hui par ce même esprit, si vous voulez. Il a été porté par les instrumentistes qui sont venus faire les exemples de ces leçons, les instrumentistes du conservatoire qui admiraient et qui cooptaient les diplômes du conservatoire de Paris. Alors ce que dit Yves Balmer, qui est important aussi, c'est que Messiaen a été porté par le ministère des Affaires étrangères. Alors j'ai publié un tableau que Balmer a lui-même publié dans sa thèse, je pense, puis dans certains articles. En fait, Balmer montre qu'après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, le ministère des Affaires étrangères avait intérêt à ce que, disons, les artistes les plus, disons, connus de son pays, musiciens ou autres, aillent s'illustrer dans certains pays, comme les États-Unis, par exemple. C'était une affaire de diplomatie, et finalement, nos artistes étaient des diplomates. Et donc, comme Messiaen, selon Yves Balmer, il suggère qu'il était peut-être un peu près de ses sous. En tout cas, Messiaen ne pouvait voyager que si le voyage était payé par l'État. Donc, dans ce cas-là, il fallait qu'il aille là où l'État lui payait son voyage, et donc dans les pays que l'État français voulait voir foulés par ses grands artistes, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, mais pas le Japon, par exemple. Et donc, selon Balmer, ce qui a été important dans la réception à l'étranger de Messiaen, ça a été la volonté du ministère des Affaires étrangères pour des raisons politiques. Il oublie le Japon, qui a eu finalement un engouement spontané et non, pour le coup, non voulu par les affaires étrangères françaises. Et l'engouement du Japon, ça a été donc à travers, comme je disais tout à l'heure, la radio d'occupation. Le Japon a connu certaines œuvres à la radio. Au Japon, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait une soif théorique extraordinaire. Ils ont lu, avant même d'entendre sur Engelis la symphonie à la radio d'occupation, ils ont lu, certains d'entre eux, Technique de mon langage musical, traduit avant d'entendre une seule œuvre. Alors, pourquoi cette soif théorique? Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a cette soif théorique un peu partout qui a donné finalement le sérialisme intégral. Peut-être pour reconstruire, donc avec des théories, le monde détruit après la Deuxième Guerre mondiale, mais en tout cas cette soif théorique, je ne sais pas si avant cela et après cela, trouver un équivalent dans l'histoire. Et les Japonais ont su, gré à Messiaen, d'avoir écrit surtout Mode de valeur et d'intensité en 1949, qui avait l'air de planter les clous de Darmstadt, c'est-à-dire d'inventer le sérialisme intégral. Avant Boulez et Stockhausen, en 1949. Alors Jean-Claude Risset, nous révèle qu'en fait c'est Milton Babbitt qui aurait fait ça avant. Alors justement, je le cite dans ce livre, et d'après Risset, il y aurait une conspiration du silence française pour que ce soit Messiaen et ou après Boulez qui a inventé le sérialisme intégral et pas Babbitt. Bon, est-ce que c'est si important au demeurant? Mais voilà, donc on rétablit un peu cette, on va dire, petite vérité. C'est peut-être un Américain, finalement, Babbitt, qui aurait eu l'idée très simple, d'ailleurs, d'étendre les séries, non plus aux hauteurs, mais aux durées, aux intensités. Mais alors, les Japonais ont adoré mode de valeur et d'intensité, et parmi mes camarades du conservatoire, souvent je voyais les pianistes japonais jouer mode de valeur et d'intensité, une camarade l'orchestrer, notamment en classe d'orchestration, et donc ce sont les œuvres les plus, on va dire, les plus arides de Messiaen que les Japonais ont d'abord sélectionnées. Les Japonais n'ont pas tout de suite compris le style oiseau, d'ailleurs, parce qu'ils le trouvaient peut-être un peu trop ludique aux yeux de leur goût théorique, pour le Messiaen théorique. Et donc les Japonais ont eu cet engouement, on va dire, spontané, non voulu par l'État français, et finalement dans les années 60, en 1962 je crois, ils l'ont invité donc au festival qui avait lieu à Karuizawa, ils ont invité Messiaen, et ça a été une sorte de première idée pour Messiaen de sa gloire au Japon. Il a découvert qu'il était vraiment célèbre là-bas en 62, et ça a été pour lui une découverte extraordinaire. Il a découvert, comme il dit, une culture extraordinaire, et qui était très flatteuse pour lui, parce qu'il s'est trouvé finalement d'un seul coup allié à des très précieux musiciens, parce que chez ces musiciens il y avait des chefs, des futurs chefs d'orchestre, hein, comme Ozawa par exemple, qui allait défendre son œuvre avec son excellence, et Ozawa qui va créer à l'Opéra de Paris Saint-François d'Assise et aussi les versions japonaises. Donc sans les Japonais, il n'y aurait pas eu cette médiation non plus, l'excellence des chefs japonais, vous savez, leur perfectionnisme, leur culture perfectionniste.